Bonjour, samedi 1er décembre, ravi de vous retrouver pour un nouveau voyage au cœur de 7 jours d'actualité grâce à la richesse des reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le site de la radio, www.rfi.fr, et sur notre application RFI Pure Radio. Cette semaine, nous allons nous rendre en Russie, aux États-Unis, en France, bien sûr, et sur le continent africain, bien évidemment, en République démocratique du Congo ou au Sénégal, notamment. Nous sommes en compagnie de Mireille Duteil, qui a écrit « Les martyrs de Tibérine, l'histoire d'un drame politico-religieux ». Bonjour Mireille Duteil.
Bonjour.
Et je suis ravi de vous retrouver à ce micro dans cette émission. Ça nous rappelle des souvenirs déjà lointains dans cette émission qui fête ses 23 ans. Donc il y a eu beaucoup d'émissions que nous avons faites ensemble il y a quelques années.
Pendant de longues années.
Je suis donc ravi de vous retrouver à l'occasion de la publication de ce livre, Les martyrs de Tibérine, l'histoire d'un drame politico-religieux. Un livre que vous aviez déjà publié en 1996. C'est une réédition actualisée. C'est important de le signaler. On peut rappeler en deux mots les faits, Mireille?
Oh, les faits, c'est assez simple, peut-on dire. Une histoire compliquée, mais avec des faits, au moins le départ de l'histoire assez simple. À savoir que c'est l'histoire de l'enlèvement de 7 moines cisterciens dans la montagne, dans des montagnes au sud-est d'Alger, pendant cette terrible guerre civile algérienne qui a eu lieu dans les années 90, ils ont été enlevés pendant à peu près 2 mois et demi. Ils sont restés, personne ne les retrouvait dans cet endroit, alors qu'il y avait des parmi eux 7 moines, dont 2 surtout étaient très vieux et ne pouvaient pas marcher, etc. Et au bout de ce temps, où on n'en finissait plus, où les péripéties entre la France et l'Algérie pour les faire libérer, ça a été en vain, on a retrouvé simplement les têtes des moines. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas où sont les corps des moines, ils n'ont jamais été retrouvés, et le problème c'est de savoir exactement qui les a enlevés exactement, pourquoi les a-t-on enlevés, et ça a été vraiment une histoire très très compliquée, que peut-être on n'élucidera jamais complètement entre la France et l'Algérie. Donc c'était à la voir très religieux, parce que c'était une guerre qui était une guerre civile entre l'armée algérienne et les islamistes, on s'en souvient très bien, une guerre qui a fait presque 200 000 morts, mais en même temps c'est une guerre aussi dans des relations compliquées entre la France et l'Algérie, qui ont toujours été compliquées, et je pense qu'on ne réussit pas à savoir exactement, d'une part, qui les a enlevés, qui les a détenus, et qui les a tués. Comment ont-ils été tués? Et c'est simplement, j'ai ressorti ce livre tout simplement parce que au printemps dernier, on a enfin eu les résultats de l'autopsie au bout de 22 ans, parce que les Algériens ont freiné pour faire cette enquête avec le prétexte que les moines, la plupart des moines, mais pas tous, étaient des Algériens.
Oui.
Bref, donc pourquoi est-ce que les Français avaient la nationalité
algérienne?
Pourquoi est-ce que les Français venaient s'en mêler? C'était une histoire intérieure. Donc tout ça était compliqué. Et comme c'était un pays à l'époque, lorsqu'ils ont été enlevés en 1996, c'était un pays en guerre, il est évident que c'était pas la transparence dans le pays et disons que dans la politique du pays, et que c'était vraiment l'armée, les services de sécurité qui tenaient tout.
Alors nous allons reparler de tout ça, de cette affreuse affaire sur laquelle donc il y a encore beaucoup de zones d'ombre, Mireille Duteil, et nous allons aussi parcourir l'actualité, comme chaque samedi à cette heure-ci. Et je vous propose de revenir tout de suite sur la grande affaire du moment entre la France et bon nombre de pays africains, la restitution d'objets d'art, vous suivez ça de très près. Nous y avons consacré une journée spéciale sur notre antenne cette semaine. Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière la restitution de 26 œuvres au Bénin, pour commencer. Écoutez ce qu'en pensent ces étudiants de la faculté d'histoire de l'université d'Abomey-Calavi.
Comprendre que nos biens culturels vont revenir, ça va un peu associer la théorie à la pratique. On s'est toujours appesanti sur l'oralité, on a toujours dit voilà, telle chose s'est passée. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas vu les preuves matérielles, ou on voit ça sur le net, on n'est pas sûr de l'authenticité. Donc je crois qu'avec ça, ce serait bien.
Il faut que ça soit concrétisé et que ça soit le plus tôt que possible. Qu'on nous rende les objets qui sont les nôtres. De façon définitive, ce sont nos objets, nous voulons les avoir chez nous, quelles que soient les conditions. Je n'ai pas encore une idée de 16-26 objets, mais je sais qu'il y a des trônes de nos anciens rois qui sont là-bas. Et je sais qu'il y a des objets d'art et sculptés à la main qui datent du 16e, du 17e siècle. Je sais qu'il y a de ces objets-là qui sont dans des musées français. On a des musées au Bénin pour conserver cela. Et par la suite, il y a de très ambitieux projets de construction de musées par le gouvernement. Ça va donner une référence par rapport au Bénin. On sera référencé. Les touristes vont venir ici chez nous pour voir ces objets au lieu d'aller en France. Ça fait déjà de l'emploi créé dans le secteur du tourisme.
C'est bien, nous ferons du bien économiquement et aussi sur le plan culturel. On va dire que est-ce que nous avons des musées, nous avons des places où garder ces biens-là. Moi, je dis oui.
Quand tu vas à Abomey, par exemple, pour faire tes recherches, tu ne trouves pratiquement rien au musée. Ce qui est là n'est pas authentique. Donc, il faut qu'ils nous ramènent ce qui est à nous pour qu'on puisse retracer plus notre histoire.
Propos recueillis par Jean-Luc Aplogan. Nous reviendrons, Mireille, sur ce sujet tout à l'heure, mais j'ai envie de vous entendre sur cette question de la restitution des objets d'art africains.
Alors, c'est une question compliquée, mais qui, je pense, est normale. C'est normal que les Africains récupèrent complètement tout ce patrimoine qu'ils avaient et dont ils ont été spoliés au cours de la colonisation. Bon, une fois que l'on a dit ça, ça suffit pas parce que c'est quand même très compliqué. C'est à la fois compliqué parce qu'il n'y a pas qu'en France où il y en a, mais bon, c'est pour toute l'Europe,
en plus, c'est pas
vrai.
Français,
hein.
Oui.
C'est la Belgique, c'est l'Angleterre, enfin bon, c'est un petit peu l'Allemagne, tous ceux qui étaient, disons, les puissances coloniales. Hein. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que il y a des problèmes juridiques, peut-on dire, du côté français. Il faudra changer la loi, mais à la limite, une loi, ça se change, puisque tout ce qui est le patrimoine, ce qui est dans les musées, ce sont des biens inaliénables.
Ouais.
Donc il faut changer cette loi. Bon, ok. L'autre chose, effectivement, c'est de savoir d'où viennent ces biens. Est-ce que c'est des biens qui ont été pris pendant la colonisation par des victoires militaires, comme ça, par exemple, ça s'est passé pour le Bénin, le trône du roi Bézanguin. Ça, il y a pas de problème, il y a pas de question. Mais il y a effectivement aussi un marché de l'art. Il y a des choses qui ont été vendues à l'étranger. Donc on peut pas les considérer que c'est la même chose. Que c'est une captation de quelqu'un. Donc ça, c'est aussi à se voir. L'autre
question...
Donc il
faut vraiment veiller à la provenance aussi de ces objets.
Il faut veiller à la provenance. Ouais. Et après, le retour, il faut veiller... est-ce que, évidemment, on ne peut pas... Je ne pense pas que ça doit... Ça doit se faire dans la concertation. Où est-ce que ces objets vont aller? Est-ce qu'il y a vraiment des musées qui sont bien pour les recevoir, disons, qui sont... Est-ce que il ne faudrait pas que les objets ensuite redisparaissent, tout ça? Je pense que c'est un problème de concertation, c'est un problème qui doit se faire avec le temps, et je pense que du côté africain, ils sont aussi bien le Bénin que le Sénégal qui a demandé que l'on lui rende beaucoup, beaucoup d'œuvres.
Parce que le Sénégal a un musée dédié spécialement
Absolument.
Pour ça, et ses œuvres d'art sont attendues, on en parlait la semaine dernière.
D'accord. Oui, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'au Sénégal, en plus, beaucoup des œuvres avaient été officiellement prêtées, y compris pendant la colonisation, à la France, à des musées. Ils n'ont jamais retourné au Sénégal.
Il y a des prêts qui durent très longtemps, vous savez.
Il y a des prêts qui durent longtemps. Mais peut-être aussi, qu'il faudrait aussi imaginer, bon, d'abord des prêts où on retourne en Afrique pour un certain temps. On fait, pourquoi pas, des expositions itinérantes, sait-on jamais. Après, ça sera un problème d'imagination, de confiance et d'argent.
Sept jours dans le monde.
Parlons maintenant, Mireille, d'une zone d'instabilité en Europe, c'est le moins qu'on puisse dire, une zone dangereuse même désormais. Les gardes-côtes russes ont en effet intercepté par la force dimanche 3 navires de la marine ukrainienne en mer Noire, non loin de la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée, on le sait, par la Russie en 2014, dans le détroit de Kerch exactement. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été saisi et la loi martiale décrétée en Ukraine à New York, Marie Bourreau.
1h15 de dialogue de sourds entre les Occidentaux d'un côté qui condamnent unanimement l'agression russe et la violation de la souveraineté de l'Ukraine et la Russie de l'autre qui assure qu'elle fait les frais d'une tentative de complot de Kiev et de son président Porochenko en difficulté dans les sondages. À part les traditionnels appels au calme, à la retenue et la demande des restitutions de ses bateaux et de ses marins à l'Ukraine, il ne fallait de toute façon pas attendre grand-chose de cette réunion où Moscou, membre permanent du Conseil de sécurité, sécurité est dotée du droit de veto à empêcher toute action depuis 2015. Les diplomates n'ont pas non plus semblé soutenir la demande ukrainienne de mettre de nouvelles sanctions sur la Russie. La situation est pourtant particulièrement inquiétante. Il s'agit des incidents les plus graves depuis 4 ans. Kiev a accusé Moscou de préparer une offensive terrestre et de vouloir récupérer la ville portuaire de Mariupol, ce que le représentant russe a démenti. Il a toutefois dénoncé en filigrane le soutien occidental à Kiev et prévenu de très lourdes conséquences si la souveraineté de Moscou était à nouveau entravée en mer d'Azov.
Alors mardi, Vladimir Poutine a pris position dans cette crise. Selon lui, le président ukrainien a donné une trop grande importance à cet incident pour des raisons électorales. Une élection présidentielle se profile en effet en Ukraine ces prochains mois. Correspondance mercredi de Daniel Valo.
À aucun moment durant sa réponse, le président russe ne prononce le nom de son homologue ukrainien. Et pourtant, aux yeux de Vladimir Poutine, c'est bien Petro Porochenko qui est l'instigateur de l'incident maritime qui a éclaté dimanche au large du détroit de Kerch. Le président ukrainien est en mauvaise position dans les sondages, explique Vladimir Poutine. À quelques mois de la présidentielle, il avait donc besoin d'un prétexte pour décréter la loi martiale. Et le président russe de s'étonner qu'un incident frontalier suffise à déclencher cette loi martiale qui n'avait été instaurée ni pour la Crimée ni pour le Donbass. Pour Vladimir Poutine, les gardes-côtes russes n'ont fait que leur devoir en arraisonnant les navires ukrainiens qui se trouvaient dans les eaux territoriales russes. En septembre dernier, ajoute le chef du Kremlin, plusieurs navires de guerre ukrainiens avaient pu franchir le détroit de Kerch sans être inquiétés. Mais cela, ajoute Vladimir Poutine, avait respecté les règles en vigueur sur le détroit.
Alors une situation à suivre évidemment dans nos journaux, Mireille Dutheil. Petro Porochenko, le président ukrainien, parlait ces derniers jours d'une menace de guerre totale avec la Russie. Il a décrété avec le soutien du Parlement la loi martiale dans 10 régions frontalières du pays et les côtes ukrainiennes. La situation est dangereuse, vraiment.
À mon avis, elle est très dangereuse. C'est le genre de situation qui peut déraper et qui peut mener à une guerre régionale, quoi. Enfin, tout à fait. Non pas que le président ukrainien soit absolument... on doit l'absoudre de toute arrière-pensée électorale. Ça, c'est évident. Mais néanmoins, là-dessus, ce que l'on voit, c'est que Vladimir Poutine, lui, il pousse ses pions semaine, mois après mois, semaine après semaine.
Car il a une stratégie bien établie.
Il a une stratégie établie. Oui. Il a une stratégie établie, c'est de récupérer au maximum les régions et surtout la puissance qu'avait l'URSS d'autrefois, quoi. Pas complètement, là, les pays baltes, on les survole de temps en temps, puis après, évidemment, on se retire gentiment. Enfin, on se retire de l'espace aérien, bien sûr, hein. Gentiment. Mais là, je veux dire, il y a eu le Donbass tout d'abord. Il y a eu ensuite la Crimée, qui est quand même une annexion, même si la Russie a toujours considéré que la Crimée faisait partie de chez elle, de son territoire, ce qui est vrai, hein, faut pas l'oublier quand même. Néanmoins, et maintenant c'est la mer d'Azov qu'il veut reprendre.
Il faut préciser, Mireille, que la mer d'Azov,
alors,
c'est une petite mer intérieure au nord de la mer Noire.
Une petite mer intérieure qui a un seul passage, on peut y accéder que par un seul endroit, précisément le détroit de Kerch Et là, Poutine a mis un pont suffisamment bas pour que les bateaux, les gros bateaux, ne puissent pas passer dessous.
Ça ressemble à une frontière.
Hermétiquement fermée. C'est incroyable. Et alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que parallèlement, depuis ces derniers mois, pratiquement depuis le mois d'octobre ou même un peu plus, il y a deux ports sur cette mer d'Azov qui appartiennent à l'Ukraine, qui sont de plus en plus enclavés. Enfin, je veux dire, plus rien on peut plus y arriver. L'aéroport, comme il y a une zone d'instabilité dans cette région à l'arrière des ports, l'aéroport ne fonctionne plus. Les routes sont dans un état épouvantable et maintenant il n'y va plus avoir d'approvisionnement par la mer. Bah, c'est-à-dire que c'est terminé et c'est quand même un des grands ports ukrainiens. Donc on comprend que Poutine pousse ses pions un peu loin.
D'autant, Mireille Dutheil, qu'il faut rappeler que pour les Russes, l'Ukraine, c'est le berceau historique du pays.
Bien sûr.
Donc ça prend une charge.
Mais bien sûr, tout à fait émotionnel, c'est de l'affect. Mais je pense en fait qu'il faut, peut-être que l'Occident aussi, l'Europe, tout ça, et les États-Unis encore plus ont tort. Je pense qu'avec Poutine, on a eu tort depuis longtemps de pas lui parler et de ne pas comprendre ce qu'il a dans la tête et quelles sont ses revendications. Non pas pour dire c'est parfait ce qu'il fait et on ne fait rien, mais c'est un grand pays, c'est quelqu'un qui a des idées. Ouais. La Russie est un grand pays, c'est un homme fort dans ce pays, c'est un autocrate et il est évident que c'est pas les menaces qui peuvent le faire céder.
En tout cas, c'est pas le dialogue qui va commencer, puisqu'en ce moment, avec le G20,
ah bah là,
on sait
malheureusement,
que Trump, Donald Trump
je,
a décidé de pas lui en parler.
Je suis pas sûr que quand Trump dit on lui parle pas, ce soit la meilleure méthode.
Une semaine d'actualité.
Mireille, après l'avoir totalement bouclé pour éviter l'arrivée de réfugiés, de migrants d'Amérique centrale notamment, Donald Trump justement a rouvert la frontière américaine avec le Mexique à New York dimanche. Grégoire Portier.
Après plusieurs heures de fermeture totale, à partir de la mi-journée, le principal poste frontière entre le Mexique et les États-Unis, tout à l'ouest du pays, a finalement rouvert, d'abord pour les piétons, puis aussi en partie pour les véhicules. Certaines lignes demeurent fermées, car du matériel pour renforcer la sécurité est en train d'être installé. Sous l'impulsion de Donald Trump, qui affiche son intransigeance envers les migrants clandestins et même ceux qui viennent pour demander l'asile, les forces de l'ordre américaines ont pour mission de repousser tous ceux qui essaieraient d'entrer illégalement aux États-Unis. 9000 militaires ont même été envoyés sur les milliers de kilomètres où le passage est possible. Dimanche, 500 personnes ont d'abord réussi à franchir une barrière métallique de délimitation entre les deux pays, mais elles ont été accueillies à coups de gaz lacrymogène. Cela a alors été la débandade, mais cette crise devrait en tout cas continuer de diviser les Américains. Car si le poste de Tijuana a finalement rouvert et qu'un peu plus à l'est, on pouvait toujours entrer en Californie sans problème, le symbole d'une frontière fermée et les images chaotiques de ce dimanche pourraient être une nouvelle étape dans le débat.
Ainsi s'est décidé, Mireille, à l'issue de longues négociations conduites par le français Michel Barnier, l'Union européenne a pris acte du départ de la Grande-Bretagne. Écoutons Juliette Gerbrand dimanche à Bruxelles.
C'est un sommet que beaucoup n'auraient jamais imaginé il y a encore quelques années. À son arrivée dimanche matin, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, exprime son émotion.
Voir un pays comme la Grande-Bretagne quitter l'Union européenne, c'est un moment triste et c'est une tragédie.
Le président français Emmanuel Macron rappelle quelques minutes plus tard qu'il faut assumer les choix des Britanniques.
C'est le choix d'un peuple souverain. C'est un moment, je crois, de dignité que nous devons avoir collectivement, d'unité et de responsabilité.
Et ce sommet, c'est en effet une belle démonstration d'unité des Européens qui ont donc avalisé un traité de retrait de 585 pages. Il entre en vigueur le 30 mars prochain et il n'est plus négociable, comme l'a rappelé Theresa May.
Si certains pensent qu'une autre négociation pourrait être entamée, eh bien ce n'est pas le cas. Et comme il a été dit, c'est le meilleur accord possible et c'est le seul accord possible.
Une déclaration politique sur la relation future entre Londres et les pays de l'Union européenne accompagne le traité. En fait, le processus est loin d'être fini, mais le président du Conseil, Donald Tusk, reste positif.
Quelle que soit la façon dont tout cela se terminera, une chose est sûre, nous resterons amis jusqu'à la fin des jours.
La balle est à présent dans le camp des députés britanniques dont le vote doit intervenir avant le 21 décembre.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Mireille Dutheil, nous allons parler un instant de Donald Trump. Je vous posais la question hors antenne pour ne rien cacher à nos auditeurs, savoir de quel président nous parlions quand nous étions ensemble dans cette émission. Je crois qu'il s'agissait de George Bush Jr. et des débuts du premier mandat de Barack Obama. Donc
absolument.
Depuis, les choses ont évolué. Ouais. Donald Trump vous inspire un commentaire, j'imagine, oui.
Oh, oui.
Et notamment avec sa frontière mexicaine.
Oui, bien entendu. Mais je veux dire, ce qui se passe avec sa frontière mexicaine n'est pas très, très, très étonnant. Il l'a toujours dit, il voulait faire un mur. Il n'a pas vraiment réussi à faire totalement un mur parce que c'est invraisemblable sur plusieurs milliers de kilomètres de long. Ouais. Mais voilà, je veux dire, c'est... Là, il a entrouvert la frontière, mais combien de temps? Combien de jours? Non. Il va, bon, on va laisser passer des gens auxquels, au goutte à goutte, on donnera des papiers. C'est tout.
Il y a cette image, cette
mais
image
c'est terrible, ouais, en fait, ce qui se passe.
Ces images de ces derniers jours où on voit des réfugiés honduriens qui ont traversé tout le continent de l'Amérique centrale pour arriver au Mexique et qui sont obligés maintenant de repartir.
Et qui repartent chez eux. Il y en a qui repartent chez eux. Mmh. Bah, ils ont compris. Eux aussi ont été trompés. C'est incroyable comment, où ils se sont trompés tout seuls, enfin, comme toujours, comme les gens qui partent d'Afrique et qui pensent que ça va être l'Eldorado une fois qu'ils auront réussi à passer la Méditerranée. Et là, ces gens, ils n'ont pas le choix, à vrai dire. Le Honduras, le Guatemala, c'est, ce ne sont pas des pays démocratiques. Il y en a qui risquent leur vie. Alors, ils se disent, ils risquent leur vie, mais ils viennent avec leur famille, avec des enfants en bas âge. C'est absolument terrible. Et cette propension des pays riches, y compris la France, à se renfermer sur eux-mêmes, c'est vraiment incroyable. Mais on comprend très bien en Europe que, par exemple, ou en France, que si on ouvre tout, c'est pas non plus une solution. Donc, mais faudrait-il se mettre là encore autour d'une table?
Alors justement, parlons de l'Europe, Mireille, le départ de la Grande-Bretagne vous inspire là aussi un commentaire ou pas?
Je trouve que c'est une catastrophe. C'est évidemment une catastrophe. Bon, ce qui est vrai, ce qu'il faut considérer, c'est que la Grande-Bretagne, elle a jamais été totalement en Europe. Quand le général de Gaulle disait la Grande-Bretagne est une île, c'est pas simplement.
Et qui avait refusé l'entrée de la Grande-Bretagne
absolument.
Dans le marché commun
à l'époque. Et je pense que c'était, ça aurait peut-être été plus sage de poursuivre dans cette idée, sur cette voie. Parce que bon, c'est vrai que mentalement, c'était pas exactement la même chose. Mais maintenant, ils y étaient quand même depuis si longtemps. Et
72.
C'est catastrophique depuis 72. C'est catastrophique. Parce que c'est en même temps un mauvais signal pour d'autres qui peut-être en rêvent. Bon, alors il y en a moins à mon avis qui en rêvent, qui en réveillent il y a deux ans.
Je crois que certains eurosceptiques se sont calmés.
Voilà, tout à fait. Ouais. Mais ça peut repartir et qu'une fois que la brèche a été ouverte, c'est vraiment catastrophique. Mais là, c'est pas fini en plus, parce que bon, d'abord, premièrement, est-ce que le Parlement anglais va vraiment céder et suivre Theresa May? C'est pas évident. Imaginons qu'elle le fasse. Ensuite, à partir du 30, bon, normalement, plus rien ne peut changer. Disons que les Anglais, les Britanniques ne peuvent pas revenir en arrière. Mais il va falloir négocier après, pied à pied. Tout, comment ça va se passer, comment ils vont donner l'argent qu'ils doivent donner, comment ça va se passer sur l'accord de pêche.
Avec l'Irlande du Nord aussi.
Avec l'Irlande du Nord, très... Et même le petit Gibraltar, là, parce que l'Espagne va en profiter pour pousser un peu. Ah non, c'est pas terminé.
Donc les années qui viennent vont être intéressantes aussi sur cette question.
Absolument.
Vous vouliez aussi parler d'un fait qui est passé relativement inaperçu, c'est la visite chahutée du prince Mohamed Ben Salman, bien connu désormais, en Tunisie.
Absolument. Bah, le prince héritier, effectivement, sur le chemin, disons que de Buenos Aires, a voulu se redorer un peu pour aller au G20, a voulu se redorer son blason. Donc, il a fait des stops un petit peu partout dans le monde arabe avant d'arriver en Argentine. Et en fait, même si personne n'était forcément ravi de le recevoir, ça s'est bien passé partout, sauf en Tunisie. Ça s'est très bien passé, évidemment, de la part des dirigeants. C'est normal.
Mais il y a eu beaucoup de
manifestations de la part de la population, de la part des associations, journalistes, droits de l'homme et tout ce que l'on veut. Et ça, c'est quelque chose de réjouissant. Parce que il est de bon ton maintenant de dire que les printemps arabes ont échoué partout, y compris en Tunisie, où la situation économique n'est pas bonne. C'est vrai qu'elle n'est pas florissante, mais où est-elle florissante, à vrai dire?
Où il y a encore des risques de terrorisme, on l'a vu il y a quelques semaines.
Oui, il y a des risques de terrorisme, mais là c'est pareil. Où est-ce qu'il n'y a pas de risque de terrorisme réellement, en fait, hein? Donc, en fait, c'est là où le printemps arabe a vraiment plus réussi qu'ailleurs. Et il y a encore des conséquences. Je veux dire, mentalement, la population est maintenant complètement... elle est dans un esprit démocratique et quand ça ne lui plaît pas, elle le dit.
Le printemps a commencé là et s'est terminé là aussi, d'ailleurs, en Tunisie, non ?
Il s'est terminé là, mais ça ne veut pas dire qu'il est complètement terminé ailleurs.
Ouais.
Ça, je ne le dirai pas. Il peut ressurgir, le printemps. Il y en a un tous les ans.
Une semaine d'actualité.
Attendons-nous maintenant, Mireille Dutheil, en France, avec toujours la contestation des Gilets jaunes et ses conséquences politiques. À l'occasion de la présentation d'un plan sur la transition énergétique ces prochaines années, Emmanuel Macron a tenté de s'adresser à eux mardi dernier, Pauline Glaise.
Fin du monde ou fin du mois, Emmanuel Macron promet de trouver l'équation pour traiter les deux. Il fait ainsi un pas vers les gilets jaunes en proposant d'adapter la hausse de la fiscalité sur les carburants aux fluctuations des cours du pétrole. Il s'engage aussi à associer les Français à la politique de transition écologique via des consultations locales. À plus long terme, Emmanuel Macron veut surtout favoriser l'émergence de voitures plus propres et plaide pour une stratégie au moins franco-allemande, voire européenne sur les batteries. Pour le reste, les annonces du chef de l'État ont surtout concerner le nucléaire. Il entérine le report à 2035 de la réduction à 50% de sa part dans le bouquet électrique. Au total, 14 réacteurs devront donc être arrêtés à cette échéance, dont 4 à 6 avant 2030, et ce, en plus de Fessenheim qui doit fermer à l'été 2020. Quant au nucléaire nouvelle génération, il faudra patienter un peu. Aucune décision n'est prévue sur de nouveaux EPR avant 2021. Pour remplacer l'atome, le chef de l'État mise sur un triplement de l'éolien terrestre et une multiplication par 5 du photovoltaïque d'ici à 2030. Le soutien aux énergies renouvelables atteindra 7 à 8 milliards d'euros par an contre 5 milliards actuellement.
Et de leur côté, les Gilets jaunes n'ont pas été vraiment convaincus, c'est le moins qu'on puisse dire, par le président. Ils continuent leur mouvement et ils ont désigné une délégation à suivre, évidemment, dans nos journaux. La politique d'aide au développement française sera-t-elle opaque? C'est ce que pensent les députés de la majorité qui ciblent en particulier l'AFD, l'Agence française de développement, justement, Pierre Firsion.
Le 14 novembre dernier, devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le député Frédéric Barbier met les pieds dans le plat. Lors de la présentation du projet de contrat d'objectifs et de moyens de l'Agence française de développement pour la période 2017-2019, ce parlementaire de la majorité formule deux critiques. Non seulement le document remis est trop court, estime-t-il, mais il est surtout présenté trop tard. Son examen s'apparente plus à un enregistrement formel qu'à une véritable occasion de se prononcer sur le fond du projet, regrette le député. Une critique à peine voilée de l'AFD et de son fonctionnement. En creux, certains députés reprochent à l'agence son manque de transparence. Aïna Curic, députée La République En Marche.
Ce que j'attends de l'AFD, c'est qu'on a un véritable suivi sur tous les investissements, les prêts, les dons qui sont faits pour qu'on puisse, nous, derrière, évaluer et mieux contrôler, c'est aussi notre rôle, les différentes actions pour savoir si oui ou non il y a des ajustements à faire. Aujourd'hui, c'est difficile à faire.
Au-delà du fonctionnement de l'AFD, plusieurs députés de la majorité appellent à un meilleur pilotage de l'aide au développement, à l'image d'Hubert Julien Laferrière.
Aujourd'hui, on est dans une situation qui est trop complexe. Il y a un manque de lisibilité parce qu'on a une mission aide au développement qui est partagée entre deux programmes, l'un sous l'autorité du Quai d'Orsay, l'autre sous l'autorité de Bercy. Et ça, c'est pas très bon. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que l'ensemble de l'aide publique au développement soit sous l'autorité du Quai d'Orsay.
Ce sujet devrait faire l'objet d'un débat à l'Assemblée en début d'année prochaine lors de l'examen du projet de loi d'orientation et de programmation.
Suite d'une semaine d'actualité, alors Mireille Dutheil, avez-vous croisé des gilets jaunes?
J'ai croisé des gilets jaunes à l'extérieur de Paris, effectivement. Mais
bon, vous suivez ce mouvement avec attention.
Oui, parce que c'était d'abord parce que c'était une surprise pour tout le monde, hein, commencer par les dirigeants, manifestement.
Il avait, semble-t-il, sous-estimé.
Ils ont complètement sous-estimé. Ce qu'ils ont sous-estimé, je pense, c'est la profondeur du mécontentement. Parce que le mécontentement, il n'y a pas qu'un. En fait, le problème des taxes et de l'augmentation du diesel et de l'essence, du diesel surtout, ça a été la dernière étincelle. Hein. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense que c'est des gens qui ont. Depuis longtemps, ils ont l'impression d'être déclassés, qu'ils s'en tirent pas, ils réussissent pas à faire leur fin de mois, et c'est tout. Et je pense qu'au niveau du pouvoir, on avait l'impression que comme on augmentait un petit peu les aides pour les plus pauvres, ça suffisait. Mais non, ça suffit pas. On a
D'autant qu'il y a eu aussi des réductions d'aides sociales, par ailleurs.
Il y a eu des réductions d'aides sociales. Ouais. Oui, ça, au niveau des retraités, ça, c'est évident. Mais, et en plus, la grosse faute, c'est d'avoir donné au départ on a un peu soutenu tout ce qui était les grandes entreprises, les grandes fortunes, l'ISF, etc. Et ça, psychologiquement, c'est mauvais. Et je pense que quand on fait une erreur psychologique au départ, c'est difficile de revenir en arrière. Difficile de revenir en arrière et surtout difficile de revenir dans les têtes. Et maintenant, je ne pense pas. On voyait très bien la semaine dernière à la télévision quand on entendait les responsables qui ne comprenaient toujours pas qu'est-ce que c'est que ce mouvement. Parce qu'en fait, ce qui est quand même terrible, c'est que Emmanuel Macron, à la limite, ça a été le gilet jaune de la politique en ce sens qu'il ne s'est pas appuyé sur un parti, il ne s'est appuyé sur rien. C'est lui qui est parti, sabre au clair, il a réussi, il a été élu président de la République. Il a été en disant qu'il écoutait ce que disaient les gens la première année, avant son élection ou un an et demi avant.
Surtout pendant
il avait envoyé des jeunes faire le tour de la France pour faire remonter de la base. Et une fois au pouvoir, il a décidé de tout. C'est pas possible, on peut pas fonctionner. Je pense que le tort de ce pouvoir, c'est d'avoir peut-être des gens un peu trop jeunes et surtout qui n'ont jamais été élus.
Ils n'ont pas d'assises politiques.
Ils n'ont pas d'assises politiques, mais aussi Oui, mais aussi, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. Ce sont des gens qui ont fait plutôt des grandes écoles, qui sont peut-être de la classe moyenne supérieure. Ça ne veut pas dire qu'ils soient de famille tous très riches, loin de là, pas du tout. Mais ils sont quand même pas, ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que celui qui est dans une petite ville, qui n'a plus de train le lendemain, qui n'a plus, etc.
Ce qu'il faut noter, Mireille, c'est que tous les sondages d'opinion, on parle rarement de sondages dans cette émission, mais quand ils commencent à être cumulatifs et montrer les mêmes résultats, c'est qu'ils sont significatifs, que 80% de la population française soutient ce mouvement. Oui. Ça devrait peut-être aussi inquiéter le gouvernement.
Mais évidemment, 80%, c'est certain. Et si demain il y a en plus une coalition de la classe moyenne supérieure plus des retraités, alors là, c'est tout à fait étonnant parce que c'est nouveau ce qui se passe dans ce pays. En fait, c'est nouveau, mais quand on écoute des historiens, ils voient qu'à travers l'histoire, il y a eu des moments comme ça dans la vie de la France où il y a eu des mouvements qui étaient des mouvements spontanés, d'un ras-le-bol. C'est plus possible.
Et je recommande d'ailleurs le livre que vient d'écrire un contre-historien de cette question, Gérard Noiriel, qui écrit une histoire populaire de la France et avec tous ces mouvements depuis le XVIIe siècle, même depuis le Moyen-Âge.
C'est très intéressant ce qu'il a écrit, effectivement.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique donc, merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire, également sur la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Bonjour à Bacas qui nous suit depuis 3 ans. Bonjour à Alioun qui espère lui que l'augmentation annoncée des frais de scolarité des étudiants étrangers en France incitera, écrit-il, nos dirigeants africains à faire monter en qualité l'éducation dans nos pays. Fin de citation. Un salut à Aladji et à Alimou à Conakry, à Fousséni à Lomé. Bonjour à Gallo, qui nous écoute lui en ce moment même dans le village de Tawawalo au Sénégal. Enfin, un salut à Moutari à Niamey, Meshak à Brazzaville et Babacar à Dakar.
Une semaine d'actualité.
Et ça y est, Mireille, nous sommes sur le continent africain. Nous allons reparler de l'Algérie et de l'assassinat des moines de Tibérine dans un instant. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur la publication des Congo Files, cette fuite de milliers de pages de documents confidentiels qui concerne l'assassinat de 2 experts de l'ONU. Ils mettent en avant une bien curieuse attitude de l'Organisation des Nations Unies. Sonia Rollet.
Les Congo Files, ce sont plus d'un an et demi de rapports d'enquête, notes confidentielles, e-mails, câbles diplomatiques, des documents qui témoignent d'une certaine schizophrénie du système onusien face à ce crime inédit. Quand Michael Sharp et Zaïda Catalan disparaissent le 12 mars 2017, c'est à la mission des Nations Unies au Congo qui est confiée la lourde tâche de découvrir ce qui a pu arriver à ces experts mandatés par le Conseil de sécurité. Les enquêteurs de la MONUSCO comprennent très vite que ce n'est pas un accident, ni même un crime crapuleux. Ils soupçonnent les témoins qu'on leur présente de chercher à les manipuler, découvrent peu à peu que derrière les miliciens, c'est tout un réseau d'agents de l'État qui s'est activé pour conduire les experts jusqu'au lieu de leur assassinat. Et pourtant, ces faits et ces preuves rassemblées dans les Congo Files ne seront jamais prises en compte par le comité d'enquête dépêché par le secrétaire général Antonio Guterres. Des informations jugées trop sensibles, trop dérangeantes pour être débattues en session par le Conseil de sécurité. D'un côté, il y a une poignée d'enquêteurs sur le terrain déterminés à débusquer les commanditaires de ce double assassinat. Et de l'autre, de hauts fonctionnaires onusiens qui veulent préserver la coopération avec Kinshasa. Ça.
Restons en RDC, Mireille, et parlons de toute autre chose. Revenons en effet sur cette question de la restitution des objets d'art africains à l'Afrique. RFI lui a consacré une journée spéciale cette semaine, donc avec par exemple cette visite guidée de l'Institut des musées nationaux du Congo à Kinshasa avec Florence Maurice.
Ça, c'est la statue royale Kuba, une pièce de grande valeur. C'est notre Joconde.
Cette statue royale Kuba, que nous présente fièrement Zola Kwandi, conservateur en chef de l'Institut des musées nationaux de Kinshasa, est la première que la Belgique restitua au Congo en 1976, sous l'impulsion du président Mobutu, qui porte alors le débat jusqu'à la tribune des Nations Unies. 114 objets sont restitués à cette période.
Il y a surtout des statues, il y a des masques, il y a quelques instruments de musique. C'est pas énorme par rapport à la quantité d'objets qui se trouvent dans ces musées royales d'Afrique centrale.
Une goutte d'eau comparée aux trésors congolais toujours en Belgique, comme par exemple les bâtons d'Ishango, deux fragments osseux sur lesquels sont gravés des signes mathématiques datant d'il y a 9000 ans, les archives de l'explorateur Henri Stanley, mais aussi des restes humains dont le crâne du chef Lusinga, décapité en 1884, est ramené en Belgique comme trophée. Pour Josette Chagé, ancienne directrice générale de l'Institut des musées nationaux, il ne s'agit pas de tout restituer, mais des pièces à haute valeur symbolique.
On a besoin des objets qui ont une valeur dans les sociétés pour que les populations qui vont venir visiter ce musée puissent s'identifier à ces objets et se projeter dans l'avenir en disant « nous avions quand même quelque chose, nous avons fait cela ».
À Kinshasa, beaucoup espèrent que l'ouverture annoncée d'un nouveau musée national en cours de construction par la Corée du Sud coupera court aux arguments de ceux qui s'opposent aux restitutions, au motif que les conditions de conservation sur le continent ne sont pas réunies.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Mireille Dutheil et nous allons parler maintenant, reparler de son livre qui s'intitule « Les martyrs de Tibirine, l'histoire d'un drame politico-religieux, la disparition le 27 mars 1996 et puis leur exécution dans les conditions dont on a parlé. Oui, on ne sait pas quand, mais leur disparition, c'est sûr. Il faut rappeler le contexte, Mireille, de l'époque, 1996. Quelques années auparavant, il y avait eu des élections dans ce pays, le 26 décembre 1991, qui avait porté les islamistes au pouvoir, puis un parti proche islamiste, et un coup d'État qui est revenu, en fait, sur cette élection, en tout cas, en janvier 1992. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Algérie...
Tout a basculé. Oui, en fait, c'était le premier tour des élections législatives où le FIS, le Front Islamique du Salut, donc les islamistes en Algérie, à la surprise, ça aurait pas dû être une surprise, mais là aussi c'était la surprise des gouvernants, est sorti premier. Il n'avait pas gagné, mais il était sorti premier. Il était en tête avec grosso modo 40% des voix, ce qui était beaucoup. Donc, grosse crainte qu'au deuxième tour... ils deviennent majoritaires, ce qui n'était pas évident. Ça aurait été que l'Assemblée nationale, mais disons qu'une partie des dirigeants et surtout l'armée et les services de sécurité n'avaient pas à l'époque confiance en Chadli pour pouvoir résister à une assemblée qui aurait été majoritairement islamiste. En fait, pour que ça soit vraiment terrible, il aurait fallu que les islamistes aient les deux tiers des voix à l'Assemblée, ce qui n'était pas sûr du tout. Et parce que dans ce cas-là, ils auraient pu changer la constitution, faire une constitution islamiste. Mais il faut se rappeler l'époque. On était en 1991. Fin décembre 91.
Coup d'État donc en 92, début.
Voilà.
92.
Et donc en 92, ils n'ont pas voulu prendre ce risque. On était encore donc une dizaine d'années après le. Ça jouait beaucoup, une dizaine d'années après l'arrivée de Roménie en Iran. Et donc, les militaires pensaient ce qui s'était passé sur place, comment plein de militaires avaient été arrêtés, avaient été tués, etc. Bref, ils n'ont pas voulu prendre ce risque pour des bonnes et mauvaises raisons. Bref. Et donc, coup d'État, on arrête complètement le deuxième tour des élections. Et début janvier, on fait démissionner le président Chadli, on l'oblige à démissionner, et on met des institutions en place qui sont des institutions qui étaient non légales, bien entendu. Et ça a été le début, pour refaire court, n'est-ce pas,
d'une épouvantable guerre civile.
C'est-à-dire, il y a eu énormément d'arrestations à partir de janvier, février 92. On a envoyé des milliers de personnes dans les camps, personnes soi-disant islamistes, on a ratissé large dans les camps du Sahara, et c'est à ce moment-là où la guerre civile a vraiment commencé, et en partie pour la France aussi, le problème a été qu'une partie de ces islamistes, des gens du FIS, qui ont voulu quitter le pays pour ne pas être arrêtés, et beaucoup sont venus en France ou en Europe. Et ça a été... Alors que la France et l'Algérie, de toute façon, étant toujours liées, il ne peut pas se passer quelque chose de terrible en Algérie sans qu'il y ait des répercussions sur la France. Hein. Mais là, comme en plus des islamistes arrivaient se réfugier ici, Il est évident que du côté des militaires algériens, de ceux qui avaient fait le coup d'État, il y avait aussi des civils dedans, hein, on considérait que Paris ne jouait pas franc jeu.
Parce qu'il faut rappeler, il faut rappeler, Mireille, qu'il y a eu des attentats à Paris à cette époque.
Oui, alors 1995, ça, c'est un petit peu plus...
Qu'il y a eu un détournement d'avion...
C'est en 94.
Oui, en 94, de l'Airbus, le fameux Airbus
En décembre 94, oui. Il a été, disons qu'il a été arrêté sur l'aéroport d'Alger. Enfin, il n'a pas pu décoller, plus exactement, de l'aéroport d'Alger. Et il y a eu deux Français qui ont été tués avant qu'il puisse redécoller après des dissensions importantes au sein du gouvernement français, entre ceux qui, suivant, comme Charles Pasqua, très proche, enfin, disons, suivaient les Algériens qui voulaient régler cette question sur place, et ceux, comme le Premier ministre de l'époque...
Édouard Balladur,
à l'époque, fin 94, ouais. Qui préférait récupérer l'avion,
Mireille,
qui est parti à Marseille.
Mireille, est-ce que les moines de Tibérine ont fait les frais de cette tension?
Bien sûr.
Pourquoi on s'en est pris à eux? Ma
bien
question
sûr.
Est,
non.
Est,
pourquoi on s'est... Oui, très simplement.
Volontairement naïve, pour qu'on comprenne bien avec le recul, pourquoi le GIA, le groupement d'islamistes, a revendiqué cet attentat.
Bon, alors, premièrement, on ne sait pas exactement qui a tué les moines de Tibérine. Oui. On ne sait pas qui exactement. Ce qui était sûr, c'est que pour reprendre ce qui se passait à l'époque, les moines de Tibérine gênaient beaucoup. Ils gênaient les militaires. Ils gênaient les militaires parce qu'ils étaient en pleine montagne, dans un endroit où il y avait beaucoup de maquis islamistes. C'était à la fois des témoins, peut-on dire, de ce qui se passait, hein, parce que c'était terrible, la répression était terrible, les bagarres étaient terribles entre islamistes et armées, hein, vraiment terribles. Hein. Et comme l'un des moines était un médecin, et lui en tant que médecin, il considérait qu'il devait soigner tout le monde. Donc dans leur monastère, leur petit monastère, qui était complètement perdu en montagne, près d'un petit village, hein, ils avaient des très bonnes relations avec les gens du village, ils soignaient tous ceux qui se présentaient. Ils ne demandaient pas ce frère qui s'appelait le frère Luc, qui disait « moi je ne demande pas la cardinale qui est qui quand on vient se faire soigner, je soigne, je suis médecin, je suis fait pour ça, serment d'Hippocrate, c'est ça ». Et voilà, et donc ça c'était inadmissible. On peut le comprendre aussi, pour des militaires qui eux, passaient leur vie à traquer des islamistes, et quand les uns et les autres se trouvaient, c'était pas très joli ce qui se passait. Vous l'imaginez bien. Donc, on a essayé de faire partir les moines, on voulait qu'ils rentrent au moins à Alger, mais qui sait qu'ils ne restent plus à cet endroit. Et les moines, eux, considéraient qu'ils pouvaient pas abandonner, disons. Ils avaient fait don, à la limite, ils avaient fait don de leur vie à l'Algérie.
Ils étaient enracinés dans ce pays,
effectivement. Ils étaient très enracinés, la plupart avaient la nationalité algérienne. Ils étaient tout à fait racinés. Ils considéraient surtout qu'ils ne pouvaient pas abandonner le village qui était à côté d'eux. Ils ont beaucoup discuté. À un moment, ils ont voulu partir. C'était difficile parce qu'ils ont eu été menacés. Il y a un groupe islamiste qui est venu un soir. Enfin, bref, ça a été une histoire terrible, compliquée, mais aussi magnifique. Et donc, ils ont décidé de rester. Ils savaient quelque part qu'un jour... Ils seraient tués, je pense qu'ils le savaient. Ils le savaient, ils en avaient peur aussi.
D'autant qu'ils vous le racontaient fort bien dans le livre, entre autres, Mireille Dutheil, qu'ils avaient reçu quelques années auparavant, en 1993, je crois, une visite qui les avait alertés.
Oui, c'est ça. Ils avaient reçu un groupe islamiste. Il s'était avéré vraiment curieusement que le chef du groupe était un des élèves d'un des moines qui était là. Bon, bref, la discussion avait été très compliquée, mais finalement, les islamistes étaient partis sans leur faire de mal, mais en disant quand même, nous reviendrons. Parce que ce qu'ils voulaient, ils voulaient de l'argent, et ils voulaient surtout pouvoir être soignés. Et donc, le père, le prieur de la communauté, a dit, c'est hors de question. D'abord, l'argent, on n'en a pas. C'est évident. Et deuxièmement, c'est celui qui, le médecin, était quelqu'un de très vieux, qui avait la goutte, qui ne pouvait pas marcher, etc. Mais ils étaient persuadés après ça qu'ils allaient revenir et se faire tuer. Ils ne sont jamais revenus, à vrai dire.
Pour conclure sur ce chapitre tragique, ô combien, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les zones d'ombre sur cette affaire aujourd'hui?
Il y en a beaucoup, beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de zones d'ombre.
Qui les a tués vraiment?
Je ne sais pas, je suis incapable de vous dire...
Personne n'est capable aujourd'hui de répondre à cette question.
Qui les a tués? On peut dire que, par exemple, les Algériens voulaient, au niveau de l'armée, j'entends, je ne parle pas du gouvernement algérien ni quoi que ce soit, mais au niveau de l'armée, leur présence gênait tellement qu'on ne peut pas peut-être qu'ils étaient derrière leur enlèvement. Mais un enlèvement, non pas pour les faire tuer, un enlèvement pour en même temps les ressortir. Parce que du côté algérien, à l'époque, l'armée, toujours, hein, c'était ça le pouvoir. Hein, parce que quand on est en guerre, c'était ça, surtout en Algérie. Hein, ils espéraient demander des armes à la France. Et du côté français, on était très réticents à leur donner tout le type de matériel qu'ils demandaient. Donc, les moines étaient aussi un objet de chantage dans cette relation très compliquée. Les Algériens, vous, étaient aussi pas d'accord avec le fait que les islamistes soient sur le sol français. Donc, c'est pareil, c'était un élément de chantage.
Ce qui est certain, c'est que l'enquête judiciaire, car enquête judiciaire il y a eu, il y a un juge d'instruction, d'abord le juge Trévidique, a été difficile à mener.
L'enquête a été terriblement longue à mener, parce que du côté algérien, ils n'étaient pas très chauds. Ils disaient, mais de toute façon, ces gens sont majoritairement des Algériens, c'est donc une affaire algérienne, qu'est-ce que vous venez faire ici? Du côté, en plus, des familles n'ont pas porté plainte au départ, parce que des familles disaient, c'était à la fois des familles françaises, donc très catholiques, et la plupart, et qui disaient, mais bon, ces moines, ils ont décidé, ils ont consacré leur vie en Algérie, pourquoi est-ce qu'on va se mettre à porter plainte? C'était leur choix, hein, vous voyez. Et les deux familles qui ont porté plainte, c'était simplement au bout de 7 ans, les premiers. Hein. Après, les autres aussi ont porté plainte. Et donc, entre tout ceci, entre le fait que les familles ne soient pas enthousiastes à porter plainte, entre le fait que les Algériens traînent les pieds, c'est le moins qu'on puisse dire, entre le fait que des juges, donc il a fallu très vidique aussi, il y a eu beaucoup de difficultés, et les Algériens ne voulaient pas faire d'autopsie. Enfin, il y avait toujours 1000 prétextes pour repousser l'autopsie. Et le rapport d'autopsie est arrivé simplement au printemps dernier, ce qui est quand même
printemps ressemblable. Printemps dernier, pour des faits qui remontent à 1996.
Le rapport, j'entends. Hein, ouais. Mais l'autopsie a été faite en 2015. Mais là, le rapport, c'est-à-dire 22 ans après leur mort.
Oui. Alors, il faut préciser, il faut lire votre livre absolument pour comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire avant, pendant et après ce meurtre de ces moines qui seront béatifiés ces jours prochains. D'ailleurs, ça, c'est dans l'actualité.
Absolument. Le 8 décembre, il y aura une grande cérémonie à Oran. Ces 7 moines seront béatifiés en même temps que les 12 autres religieux, français ou autres, les Italiens, qui ont été tués pendant cette guerre civile qui a fait 200 000 morts.
Hein, ouais, dont d'ailleurs l'archevêque, l'évêque d'Oran, Pierre Clavé.
Absolument, l'archevêque d'Allemagne qui a été le dernier mort étranger, hein, j'entends, de cette guerre.
Merci Mireille Duteil. Il faut lire votre enquête qui s'intitule « Les martyrs de Tibérine, l'histoire d'un drame politico-religieux », un livre publié aux éditions Salvator. Merci, ça nous a fait plaisir de vous revoir.
Merci, et moi aussi.
Et à bientôt, j'espère.
Merci.
Merci Mireille Duteil. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous serons en compagnie de François Doss, qui est un historien des idées. Et avec lui, nous allons parler de la saga des intellectuels français de 1944 à 1989, vaste programme. Pour reprendre le titre donc de son dernier livre, je vous recommande évidemment cette émission. Demain dimanche, 16h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.